Donc mon sujet, c'est, comme l'a rappelé le frère Jean-Marc, que je remercie de m'avoir invité une fois de plus en ce haut lieu de la culture toulousaine et de l'agglomération toulousaine, pour vous parler de christianisme et de culture scientifique. Alors évidemment, le titre indique une dualité, face à face, entre d'une part le christianisme et d'autre part la culture scientifique, et cette dualité laisse entendre qu'il y aurait non seulement une différence, mais une hostilité et une opposition. Eh bien, je pense qu'il faut effectivement prendre acte du fait que le christianisme, comme phénomène d'ensemble, et la culture scientifique sont pour le moins en tension, et que ces tensions sont actuelles. Mais je ne vais pas simplement vous parler du présent. La question de la culture n'est pas liée à l'instant, elle s'inscrit dans la durée, et c'est pourquoi je prendrai du recul en prenant les choses dans la longue durée. C'est-à-dire que nous allons considérer que le terme de science renvoie à ce que nous appelons science depuis la science moderne, c'est-à-dire depuis sa fondation au XVIIe siècle, son essor au XIXe et ses renouvellements à l'époque présente. Donc c'est cette grande période que je vais évoquer, sachant très bien qu'il s'agit évidemment du présent. Mais le présent pris avec recul permet d'être compris. Alors, comme premier point, je pense évoquer une histoire de comète. Pourquoi une histoire de comète? Parce que cette histoire est très révélatrice. Habituellement, quand on pense au conflit et à la divergence entre science et foi, ou science et christianisme, on se réfère à Galilée, début du XVIIe siècle, l'affaire Galilée. Mais vous savez, l'affaire Galilée, ça n'est pas une affaire au XVIIe siècle. C'est une affaire uniquement au XIXe siècle, quand les forces anticléricales, antichrétiennes, ont fait de Galilée un martyr de la libre pensée, de la science contre l'autoritarisme ecclésiastique. Eh bien, en réalité, l'affaire Galilée est triste, elle est confondante pour l'autorité ecclésiastique, mais elle n'a pas cet aspect dramatique. Galilée a été traité comme un prince, il n'a pas été traité comme un malfaiteur par l'Inquisition. Et ça n'a pas eu d'influence sur l'essor de la science, ni au XVIIe siècle. C'est une histoire qui s'est passée, et c'est pourquoi je vais évoquer comme phénomène révélateur un autre phénomène dont personne ne parle, donc c'est un scoop, c'est le problème des comètes. En 1860, donc une 30 ans après l'affaire Galilée, il y a l'affaire des comètes. Et l'affaire des comètes a touché tout le monde dans la culture européenne. Pourquoi? Parce que la Terre tourne ou ne tourne pas, ça n'a aucune importance sur la vie quotidienne et nous ne le sentons pas. Ça vaut d'ailleurs bien mieux. Imaginez qu'on sente la Terre tourner, ça serait décoiffant pour le moins qu'on puisse dire. Il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Par contre, l'affaire des comètes est très, très importante parce que les comètes, c'est une affaire extrêmement importante parce que c'est toute la culture populaire, la culture religieuse qui est touchée par cette affaire de comète. En effet, l'apparition des astres, et nous le savons depuis les rois mages, a toujours été interprétée depuis des millénaires comme un message venu du ciel, comme un message divin. Et l'apparition des comètes a toujours été perçue comme un signe du ciel. Or, l'explication rationnelle du phénomène des comètes va enlever tout cet aspect mystérieux aux comètes. Et vous savez que sur l'affaire des comètes, ça a été très compliqué, à savoir ce que c'est qu'une comète, la nature, le mouvement. Galilée lui-même s'est trompé sur l'affaire des comètes, ça lui a coûté très cher d'ailleurs. Mais en 1860, on a une explication suffisante. Ce qui fait qu'il y a un conflit entre l'explication scientifique, rationnelle, de ce mouvement, de ce corps céleste, que l'on commence à comprendre, et la croyance populaire dans des présages. Et donc, dans les années 60, se fait ce mouvement populaire de panique. Est-ce la fin des temps? Est-ce au contraire un phénomène tout à fait naturel? Et la célèbre comète de Halley, parce qu'elle a été observé par M. Halley, qui l'a étudié, qui en a décrit le mouvement, et qui a prévu son retour pour 75 ans après, et qui a été à l'époque la confirmation de l'ère de l'astronomie, eh bien, c'est cela qui va révéler un conflit entre la vision religieuse du monde et la vision scientifique, et qui touche toutes les classes de la société. Puisque c'est la classe paysanne, c'est le milieu populaire, c'est le milieu intellectuel qui est concerné. Ce qui fait que nous avons un texte extrêmement intéressant, écrit en 1683, écrit par Pierre Bayle, qui s'appelle « Pensées diverses », écrite à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la comète de 1680. Et ce texte est le premier manifeste du rationalisme tel qu'il va se développer dans le monde. C'est-à-dire que voyez, je lis le texte, « Si les comètes étaient un signe de quelque malheur, différent des signes naturels et signes d'institution, il faudrait que Dieu leur imprimât certains caractères tout particuliers qui les rendissent significatifs au défaut d'une signification expresse, qui justifiassent le jugement de ceux qui soutiennent que ce sont de mauvais présages et qui rendent inexcusables ceux qui n'en croient rien. Or, c'est ce que Dieu n'a pas fait. » Au contraire, il les a tellement dépouillés des véritables marques d'un prodige significatif qu'il semble qu'il ait voulu prévenir notre crédulité naturelle. Il les a soumises à la juridiction du soleil, qui dispose de la situation de leur queue comme il fait du moindre nuage, et à celle des brouillards des nues qui nous en dérobent la connaissance la moitié du temps. Voilà. Donc c'est l'explication rationnelle qui permet de comprendre le phénomène. Les explications venues du ciel, religieuses, n'ont plus aucune valeur. Et alors, il résulte de cela une première conséquence, c'est que la nature est désacralisée. Cette désacralisation est opérée largement à ce moment-là. Alors, il va en résulter quelque chose d'important pour le christianisme, c'est qu'on peut voir se durcir une opposition qui dure encore aujourd'hui entre un christianisme religion populaire et un christianisme religion savante, un christianisme éclairé. Cette tension entre la religion populaire, que l'on va qualifier de superstition, et Pierre Bayle emploie le terme de crédulité, et un christianisme qui sera un christianisme rationnel, soucieux d'esprit critique, et nous sommes évidemment dans cette tension aujourd'hui encore, où sur bien des questions nous avons un conflit entre d'une part la piété populaire, les dévotions populaires, le culte des saints, les miracles et autres choses de ce genre, crédulité, superstition d'une part, et d'autre part une religion soucieuse d'esprit critique. C'est ce phénomène qui a été évidemment très important pour notre regard sur la nature et qui dure encore aujourd'hui. La deuxième question qui apparaît, c'est corrélativement à cet essor du rationalisme, l'explication scientifique comme suffisante, c'est une certaine naturalisation de la nature, si j'ose dire, une rationalisation de toute la nature. Et cela prend forme sur la question du miracle. Le miracle a reçu diverses significations. Dans les premiers temps, on appelait miracle un signe que Dieu faisait. Et comme un signe, pour être lisible, il faut qu'il soit contrasté. Donc on écrit avec de la craie blanche sur un tableau noir et avec un feutre noir sur un paperback blanc, contrasté. Mais c'est le contraste, pour retenir l'attention, la définition traditionnelle. Avec la théologie médiévale, on a défini le miracle par rapport aux lois de la nature, et l'apologétique, au XVIIe siècle, s'en est venu à dire que le miracle serait ce qui va contre les lois de la nature. Et c'est là, évidemment, qu'il y a une rupture liée à la science. Rien ne va contre les lois de la nature. Parce que s'il y avait des choses faites contre les lois de la nature, il y aurait un contresens même dans la manière dont Dieu agit. Dieu dispose la nature selon des lois et Dieu ne se dispense pas des lois de la nature, d'observer, de respecter les lois qu'il institue lui-même. La croyance au miracle apparaît donc comme un obstacle. Et on retrouve la même opposition que je disais entre la foi populaire qui insiste beaucoup sur les miracles comme preuve. Le miracle est à prouver que Dieu agit. Et la preuve qu'il agit, c'est que ça ne suit pas les lois naturelles, c'est la culture populaire, l'apologétique. Et à l'inverse, dans un christianisme plus savant, le miracle n'aura pas d'importance. Le miracle sera simplement l'effet de surprise, le signe que Dieu fait, interprété dans un contexte religieux. Voilà donc, c'est cette question du miracle qui est là aussi une deuxième pierre de touche entre le conflit, entre la culture scientifique et le christianisme traditionnel. Ceci dure encore aujourd'hui. Le monde des savants peut se retrouver derrière cette phrase de Teilhard de Chardin que j'aime citer en disant « Je ne crois pas à cause des miracles, je crois malgré les miracles ». C'est extraordinaire comme formule. C'est une petite note. Voilà ce que pense un scientifique. La culture populaire, elle, va insister sur les miracles. Il y a des miracles partout. Même à la première page de la Dépêche, qui n'est pas un journal religieux, comme vous le savez, quand quelque chose d'insolite apparaît, on dit que c'est un miracle. Mais oui, c'est le sens banal du terme. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc nous avons ce lieu de rupture, alors qui va entraîner une véritable crise dans le christianisme. Cette crise dans le christianisme, elle a été vue d'une manière extrêmement lucide par Pascal. Pourquoi ? Parce que la tradition chrétienne, dans le cadre universitaire, elle avait fait une harmonie entre les connaissances naturelles et les connaissances issues de la Bible. Et cette harmonie faisait partie des choses que l'on enseignait, en particulier à la Sorbonne, qui était au XVIIe siècle sous le contrôle de l'Église, comme toutes les universités catholiques de l'époque. Et Pascal, qui est un novateur en sciences physiques, va renverser la physique enseignée à la Sorbonne. Et c'est pourquoi Pascal aura des conflits avec les maîtres de la Sorbonne sur ce point, des conflits scientifiques et des conflits philosophiques. La question que pose Pascal vis-à-vis des docteurs de Sorbonne, c'est le problème de l'argument d'autorité. On a dit ceci pendant des siècles, les autorités religieuses ont enseigné ceci pendant des siècles, a-t-on le droit de s'écarter de leur avis ? A-t-on le droit de les contredire ? Eh bien, Pascal va dire oui. On peut les contredire lorsque ce que l'on fait s'appuie sur des expériences, sur des observations qui ne peuvent être considérées comme des illusions ou comme des tours de passe-passe. Et donc, il faut que l'esprit se soumette à la nouveauté qui apparaît dans le monde scientifique. Et nous retrouvons là, évidemment, des questions très actuelles. Alors, je cite Pascal, c'est un très beau texte, le texte est long, je vais lire simplement quelques aspects. « Le respect que l'on porte à l'Antiquité étant aujourd'hui à tel point, dans les matières il doit avoir moins de force, que l'on se fait des oracles de toutes ses pensées, même de ses obscurités. Que l'on ne peut avancer de nouveautés sans péril, et que le texte d'un auteur suffit pour détruire les plus fortes raisons. » d'un auteur de la tradition. Dans les matières où l'on recherche seulement de savoir ce que les auteurs ont écrit, comme dans l'histoire, dans la géographie, dans la jurisprudence, dans les langues et surtout dans la théologie, il faut nécessairement recourir à leurs livres, puisque tout ce que l'on peut en savoir y est contenu. C'est l'autorité seule qui nous peut en éclaircir. Mais où cette autorité a sa principale force, c'est dans la théologie. Un peu plus loin, il n'en est pas de même des sujets qui tombent sous les sens ou sous les raisonnements. L'autorité y est inutile, la raison seule a lieu d'en connaître. Et donc, nous voyons bien comment Pascal va revendiquer le droit pour une science nouvelle, une philosophie nouvelle, face à une Sorbonne traditionnaliste, pour prendre notre langage. Et alors, Pascal, qui est un homme intelligent, dit des choses, c'est de cette façon que l'on peut aujourd'hui prendre d'autres sentiments et de nouvelles opinions sans mépris et sans ingratitude pour les anciens, puisque les premières connaissances qu'ils nous ont données ont servi de degré au nôtre et que dans ces avantages, nous leur sommes redevables de l'ascendant que nous avons sur eux. Parce que s'étant élevés jusqu'à un certain degré où ils nous ont portés, le moindre effort nous fait monter plus haut, et avec moins de peine et moins de gloire, nous nous trouvons au-dessus d'eux. C'est de là que nous pouvons découvrir des choses qui leur étaient impossibles d'apercevoir. Notre vue a plus d'étendue, et quoiqu'ils connussent aussi bien que nous tout ce qu'ils pouvaient remarquer dans la nature, ils n'en connaissaient pas tant néanmoins, et nous voyons plus qu'eux. C'est ainsi que, sans les contredire, nous pouvons assurer le contraire de ce qu'ils disaient, et quelque force enfin qu'est cette antiquité, la vérité doit toujours avoir l'avantage. Vous voyez donc ce texte de Pascal qui vient subvertir le principe d'autorité venu de la tradition. Pascal le fait en matière de science, mais nous voyons bien que cet éloge de l'expérience et de la raison vaut beaucoup plus que pour un seul domaine de travaux scientifiques. Cela vaut vraiment pour une culture. C'est une autre culture qui commence et dont la science est la fine pointe ou le tranchant. Vous voyez donc dans quel contexte, dont vous voyez l'actualité, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, nous place la nouveauté, la force, la puissance de la rationalité scientifique. Alors, je ne vais pas en rester seulement à la science du XVIIe. Il nous faut voir que cette science et son esprit a conquis l'Europe, a conquis le monde, et que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation tout à fait différente qui demande exercicement sur un point. C'est mon troisième point, c'est le problème de la technoscience. C'est que la science, elle n'est pas simplement un savoir désintéressé, un savoir pur, la soif de connaître, l'amour de la vérité dont parlait Pascal. La science, elle est aussi pouvoir, et son pouvoir est un pouvoir de transformation de la réalité. Et c'est là que va se poser un certain nombre de questions. Le XIXe siècle, qui a connu l'essor et le triomphe de la science, s'est d'une certaine manière enivré de ce pouvoir. Ce pouvoir de tout résoudre, de tout transformer, c'est ceci que nous trouvons en germe chez Descartes, qui écrit ceci: « Sitôt que j'eus acquis quelques notions générales touchant la physique et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont elles servi jusqu'à présent. » Voilà, un peu plus loin. « Elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maître et possesseur de la nature. » La formule est dite « maître et possesseur de la nature ». Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre, des commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Voyez bien que la science va engendrer un système de pouvoir sur la nature, l'homme maître et possesseur de la nature. Alors, parenthèse, vous sentez bien la différence qu'il y a entre ce texte et le texte de la Genèse où Adam est le gardien, pas le maître, le possesseur. C'est le débat actuel. Donc nous avons ceci qui va prendre son essor au XIXe siècle. Alors je cite cette divinisation de la science. Par exemple, dans ces conflits entre le christianisme et la République, un hommage est rendu à Berthelot le 4 avril 1895 sous la bannière suivante « Hommage à la science », avec une majuscule « Hommage à la science, source d'affranchissement de la pensée ». Et Zola écrit, le simple écrivain que je suis remercie la science, la bonne mère qui l'a rendu libre. Elle est l'éternel, l'immortel, et le mystère appartient à elle seule, puisqu'elle marche continuellement à sa conquête. Vous voyez, ce transfert sur l'entreprise techno-scientifique de maîtrise du monde des éléments de la religion, et même des attributs divins. La science devenue immortelle, c'est extraordinaire, une science immortelle et infaillible. Eh bien, c'est ce que le XXe siècle nous a mis en place, et ce qu'on appelle, d'un titre que j'emprunte à Jacques Ellul, le système technicien. Le système technicien, c'est-à-dire la technique, fille de la science, pas la science comme connaissance désintéressée ou gratuite, mais la technique, la puissance qui va apparaître dans la transformation du monde véritablement dans une entreprise de démiurge. Le système technicien, comme vous le savez, est un système de spécialisation et d'efficacité. Et comme nous sommes dominés par ce système, il est important d'en voir les limites. Ce système est d'abord autonome, c'est-à-dire que la technique ne dépend d'aucune loi. Elle ne supporte pas le regard du non-spécialiste sur son domaine. Il n'est qu'à voir aujourd'hui les débats en matière d'éthique médicale. Les spécialistes de médecine vous disent « j'ai raison puisque je sais ce qu'il faut faire et que seul je peux le faire ». Que vient faire le moraliste, le juriste dans ces questions auxquelles il n'entend rien ? Là, il y a un abîme. La technique, elle est autonome. Ensuite, la technique est unifiée. S'il y a spécialisation, il y a le même principe. Il y a une interconnexion. Et lorsqu'on résout un petit problème, par exemple pour l'élevage industriel, toute la pharmacie est convoquée et toute l'économie. Toutes les techniques sont présentes dans le fromage qu'on vous livre ou qu'on ne vous livre pas quand on soupçonne quelques bactéries méchantes. Autonomie, unité, universalité. C'est pareil sur toute la face de la Terre, la même technique. Et voilà, donc c'est la mondialisation est sur la base de la technique. C'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a plus de différence culturelle. Il y a une espèce d'universalité, comme le montrent les moyens de communication. Nous servons de téléphones portables qui peuvent même nous déranger quand on oublie de les éteindre, comme j'ai fait à l'instant. Mais c'est mondialisé. Et ensuite, quatrièmement, c'est la totalisation. C'est-à-dire que tout ceci est interconnecté. Et nous voyons bien comment ce qu'on peut appeler la culture scientifique n'est pas simplement cet idéal du savoir dont je parlais avec les grands fondateurs comme Galilée, comme Pascal, comme Kepler ou comme Einstein, à sa manière. Mais c'est cette puissance technique de transformation des conditions de la vie. Et c'est notre sujet, c'est que nous pouvons nous transformer nous-mêmes et notre avenir en agissant au niveau des gènes par rapport au vivant et dans un investissement par rapport à un horizon messianique. Et d'ailleurs, nous voyons bien qu'au XXe siècle, tous les grands mouvements sociaux se sont prévalus de la puissance technique et l'autorité de la science. Alors, citons pour mémoire, le jeu de mots est facile, excusez-moi. Lénine, pendant la révolution russe en 1917, avait promis aux populations russes les soviets et l'électricité. Alors, l'électricité est venue, avec des centrales nucléaires à la fin. Mais les soviets ne sont pas venus, parce que, comme vous savez, un soviet, c'est le fait que toute communauté de travail, de vie, doit se réunir en assemblée, qui doit décider de sa propre destination. Alors, les soviets ont disparu en quelques mois, l'électricité a mis plus de temps à arriver dans les campagnes. Vous voyez, c'est cette alliance entre un projet politique et une technologie de pointe, l'électricité. Bon, c'est les débats aujourd'hui. On peut trouver la même chose en d'autres domaines. La science, elle est, vous voyez, investie d'un pouvoir messianique. Mais c'est ce qu'écrit Renan dans L'avenir de la science, un livre à lire, parce que ça nous fait sourire aujourd'hui. Mais 1848, Renan écrit ceci, « La science, et la science seule, peut rendre à l'humanité ce sans quoi elle ne peut vivre, un symbole et une loi. Organiser scientifiquement l'humanité, tel est donc le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention. 1848. Organiser scientifiquement l'humanité. Et alors, et Renan, en vieux séminariste, ajoute, et après avoir organisé l'humanité, elle organisera Dieu. C'est extraordinaire. Vous voyez, ce pouvoir totalitaire de la science. Donc, ceci m'amène, évidemment, à montrer comment le christianisme, aujourd'hui, va se situer en opposition avec ce projet totalitaire, non pas la science comme savoir, mais la science comme légitimation d'un système de pouvoir dont je viens de vous dire très rapidement qu'il est totalitaire. Eh bien, c'est mon quatrième point. Ce sur quoi va porter la critique venue du christianisme à l'égard de ce pouvoir va être la notion de personne humaine. La notion de personne, comme vous le savez, est une notion qui est venue du théâtre. Persona, c'est le masque, le rôle que l'on joue dans le théâtre, donc que je bien définis. Ce terme a été repris en théologie, et les théologiens ont réfléchi et donné au mot personne toute sa richesse de sens, c'est-à-dire un individu qui est individualisé par son esprit et donc qui est irréductible. Et c'est cette notion de personne qui a été reprise dans ce contexte de conflit au XIXe et au XXe siècle pour être en quelque sorte le point d'attaque de ce totalitarisme que je viens de dénoncer. D'abord, la notion de personne dit une irréductible singularité. Dans une machine, une pièce peut être remplacée par une autre. Dans un élevage, un animal peut être remplacé par un autre, avec déjà une petite différence. Mais pour l'être humain, il n'en va pas de même. Il ne suffit pas de reconnaître l'individualité, il faut reconnaître une personne, ce qui est non communicable à tout autre. Et de ce fait, la morale chrétienne se retrouve dans le droit traditionnel, qui distingue entre les biens et les personnes. Et justement, tous les problèmes d'aujourd'hui, c'est que la frontière entre les biens et les personnes s'est brouillée. Mais ça, c'est un problème pour les juristes, et c'est le grand débat de la bioéthique. Les bioéthiques, les lois de bioéthique, c'est que la frontière entre les biens et les personnes s'est brouillée. Un embryon, qu'est-ce que c'est? C'est un bien ou c'est une personne? On ne sait plus. On dira c'est une personne, juridiquement. On dira, non, c'est un bien, on peut le donner, on peut l'utiliser. Voilà, vous voyez toutes ces questions. Donc la notion de personne a été élaborée dans ce contexte. Mais la tradition chrétienne a relevé, ça c'est la théologie, qui nous dit que la personne, elle n'est pas simplement l'individu chosifié, mais elle est la relation. Les relations sont constitutives de la personne. C'est la rencontre de l'autre qui permet à une personne d'être ce qu'elle est. Pour l'enfant, ce sont les parents, les éducateurs, dans la fratrie, dans la société, c'est tous les autres dont nous dépendons. Ils ne sont pas simplement des autres séparés, ils sont des gens qui interagissent avec nous et qui font qu'une personne devient elle-même. C'est-à-dire que nous avons ici des exigences de justice et fondamentalement, évidemment, des exigences qui relèvent de la charité et de l'amour. Et c'est pourquoi la notion de personne joue ce rôle aussi important par rapport à ce système totalitaire dont je vous ai esquissé quelques éléments. Mais la notion de personne, alors, c'est le maître mot du discours chrétien, donc je ne vais peut-être pas insister devant vous, vous le connaissez. Mon cinquième point sera pour dire que la science comme connaissance de la nature demande à être situé dans le christianisme comme un regard aussi sur la nature. Là, la nature est rationnelle, mais la nature, ce n'est pas qu'un mécanisme rationnel. Et c'est pourquoi il y a un regard spécifique de la foi. Le regard spécifique de la foi qui considère la nature comme étant ce qui est créé par Dieu. Donc ce qui est fait par Dieu. Et vous savez, quand il y a un objet qui nous tient à cœur, on peut s'y attacher pour ce qu'il vaut, mais on peut aussi s'y attacher parce qu'il évoque la présence de quelqu'un. Si c'est un cadeau, c'est la présence de celui qui nous a fait le cadeau qui fait la valeur de l'objet, même si commercialement il ne vaut rien lorsque vous essayez de le revendre. Mais c'est la présence. Donc il y a dans la nature quelque chose qui va être éclairé si on la voit comme œuvre de Dieu et pas simplement œuvre de soi-même. C'est-à-dire que la rationalité dont il s'agit de la nature n'est pas simplement une rationalité interne à la nature, mais cette rationalité va être comprise comme l'effet même de l'œuvre d'un créateur intelligent. Ce qui met la science, vous le voyez, et la foi en parfaite harmonie. Harmonie parce que pour le croyant qui reconnaît que Dieu est créateur, qui reconnaît que Dieu est intelligent et a fait une œuvre de sagesse, eh bien, ça veut dire que le monde est intelligible, plein de rationalité. Et donc que le projet même de la science n'est pas sans fondement, puisqu'il est légitime. Les énigmes du monde nous renvoient à une intelligibilité cachée, et sans quoi il n'y aurait pas de recherche. Si on n'avait pas cette conviction-là, il n'y aurait pas de recherche. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, il est important de voir que la science comme telle n'est pas du tout ennemie de la foi, mais ce qui est ennemi de la foi, c'est d'avoir absolutisé la raison comme l'explication ultime. Et ce faisant, dire cela ne fait pas violence à la science. Alors sur ce point, c'est un point qui me tient à cœur, que j'insiste, c'est que la science elle-même n'est pas ce que voudrait en faire le système technicien. La science elle-même est une œuvre de l'esprit. Alors, soyons simples, dans la science, il y a des faits. Mais comme nous savons, il n'y a pas de faits bruts. Il n'y a de faits que pour celui qui sait les voir. Alors, prenons un exemple très simple. Quand j'étais jeune, que je faisais de la montagne, devant une falaise, je cherchais les bonnes voies d'escalade. Maintenant que je suis vieux, que ceci ne m'est plus donné, quand je suis devant une falaise, je pioche mon manuel de géologie et j'y prends un autre type de plaisir. Donc le regard sur une falaise d'un géologue ou d'un escaladeur n'est pas le même. Donc il n'y a pas de fait brut. Il n'y a de fait que dans un regard. Donc un regard scientifique, une méthode, des instruments d'analyse qui fait que... on peut raconter une autre petite histoire. Je suis allé passer un examen médical. Il y avait, alors je regardais sur l'écran, je ne voyais rien. C'était tout flou. Et le médecin me disait, regardez, ça va très bien. Regardez, c'est bien. Mais je ne voyais rien. Hein. Mais lui, il voyait. Pourquoi ? Parce qu'il savait voir. Donc, il n'y a pas de fait brut. On sait voir. Mais si on sait voir, c'est qu'on a une méthode. Mais cette méthode, elle repose sur quoi ? Sur des convictions philosophiques. Sur la valeur de la raison, la valeur de la déduction. Sur des concepts. En physique, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est qu'une force, qu'est-ce que c'est qu'une énergie. C'est des concepts philosophiques. Et les vrais débats portent là-dessus. Et ces concepts même renvoient à une philosophie. Qu'est-ce que c'est que la finalité, qu'est-ce que c'est que la causalité, et toutes les questions du sens. Donc, un travail scientifique, si limité soit-il, pour qui sait être attentif et ne pas s'enfermer dans la technique, il est ouvert sur un grand horizon métaphysique. Et c'est là que la science et la foi peuvent s'accorder. Parce que l'une va apporter des éléments qui vont permettre de construire, et en particulier de construire la métaphysique qui fonde la science, c'est l'intelligibilité du réel qui est garantie par le fait que c'est l'œuvre de Dieu qui a créé tout avec sagesse, comme le dit l'Écriture. Et je voudrais ajouter un autre point, rapidement, puisque le temps passe, c'est qu'il est très important de voir... Quelle est l'origine du savoir ? Eh bien, c'est un lieu commun qu'on répète souvent et qui, à mon avis, est une erreur de dire que le savoir est venu à partir de la crainte. Parce que les gens avaient peur, les gens étaient dans l'insécurité, qui se sont mis à chercher quelque chose. J'aurais protection. Je pense que c'est l'inverse. ce qui est la base du savoir, de tout savoir, de toute connaissance humaine, dans tout domaine, c'est l'émerveillement. L'émerveillement qui est le commencement de la pensée, le commencement de la vie. S'émerveiller, c'est-à-dire considérer que les choses sont là et que ça ne va pas de soi qu'elles sont comme elles sont. Et le fait même qu'elles soient, c'est le fondement même d'un rapport avec le monde. Et je pense que cet émerveillement, c'est la racine de tout notre savoir. Et de ce point de vue-là, il y a un accord profond entre l'attitude du scientifique qui cherche à comprendre, qui s'émerveille et qui veut tout comprendre, et l'attitude, je dirais, de la foi qui s'émerveille et qui veut aller à celui qui est au principe de l'émerveillement. Alors je vous ai cité un texte de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Michael Edwards, et qui écrit ceci: « L'émerveillement est aussi au stade liminaire le pressentiment d'autre chose, la conviction d'un possible à réaliser dans le moi et dans tout ce qu'il observe. Ne voyons-nous pas tout à coup devant quelque chose de sublime ou de quotidien, de poétique ou de banal, que le monde tel que nous l'avons construit afin de le promener dans notre conscience de jour en jour est inadéquat et qu'il existe surtout une autre façon de vivre. Voilà, me semble-t-il, la finalité, le pourquoi de l'émerveillement, révéler ce que pourrait être le monde si nous le vivions à une autre profondeur. » Voilà, l'émerveillement. Et je pense que c'est l'émerveillement qui est la porte d'entrée dans cet accord profond qui va fonder une culture où la science et la foi ne soient pas en opposition. Le temps passe, je ne voudrais pas dépasser, mais on va y arriver. Dans le contexte actuel de la vision du monde, quelle peut être la position du christianisme? C'est mon sixième point. Notre vision du monde aujourd'hui est dominée par la vision de l'évolution. C'est un grand versement par rapport à la vision ancienne. Dans la vision ancienne, le monde était parfait à l'origine, et puis ensuite, à cause du péché, tout ceci se dégraderait. Donc un pessimisme fondamental. Je crois que la science d'aujourd'hui nous montre que ce sont des éléments très, très, très frustes, très peu organisés, qui se sont complexifiés, et que peu à peu, la complexité a émergé au cours de l'histoire, aussi bien pour former les êtres vivants que pour former l'humanité. Eh bien, en tenant compte de cette vision, la théologie moderne au XXe siècle s'est renouvelée dans la théologie de l'espérance. La théologie de l'espérance nous a été, en quelque sorte, la grande nouveauté de la théologie moderne. Alors, cette théologie, elle naît au XIXe, en particulier chez un grand penseur qu'on commence un peu à redécouvrir, mais les Français ne l'aiment pas beaucoup, c'est dommage, c'est John Newman. Le pape Benoît XVI estime beaucoup Newman, et d'une certaine manière, c'est lui qui a vu que c'est dans cette perspective de l'évolution du progrès qu'il fallait situer la théologie. La théologie de l'espérance, elle est développée dans le monde, je dirais, chrétien, dans les grands textes de Peggy, qui avait été marqué par l'influence de Bergson. Bergson, qui a appris à Peggy à voir la vie comme ce mouvement vers l'avant, et qu'il a traduit en termes chrétiens dans ses grands mystères sur l'espérance. Et donc les grandes théologies du XXe siècle sont des théologies de l'espérance. C'est-à-dire de considérer l'horizon de la promesse, non plus la nostalgie du paradis perdu, mais l'avancée qui nous est dévoilée justement dans la victoire du Christ sur la mort. Et le maître mot de la théologie est alors le mot promesse. Et c'est au nom de la promesse, c'est au nom de l'avenir que nous pouvons nous situer dans la crise présente que j'ai évoquée tout à l'heure, dans le totalitarisme de la technoscience. Alors, dans cette perspective, et ce sera mon dernier point, je reprendrai un thème qui est très important pour nous, qui est une de mes convictions, c'est que dans le conflit des religions que nous vivons actuellement, lié à la mondialisation, le christianisme peut se présenter comme la religion de l'avenir. Pourquoi ? D'abord, parce que le christianisme est une religion de salut. Et donc, il faut pour lui mettre au premier point de départ le fait que nous ne sommes pas dans le monde idéal, dans le royaume de la raison, mais que nous sommes dans un monde de difficultés, de compétition. Et le christianisme se présente comme le refus de se laisser enfermer dans cette logique. Cette logique est enracinée dans la nature. C'est le fameux principe darwinien de la survie du plus apte qui fonctionne réellement. Il fonctionne non seulement entre les bactéries pour savoir qu'elles sont plus aptes, ça ne nous gêne pas beaucoup, encore que ça peut nous rendre malades, mais qui fonctionne dans la société humaine. Hein, tout notre système basé sur la sélection, sur les concours et autre chose de ce genre, c'est la survie du plus apte. Mais justement, il faut sortir de cela en mettant en œuvre justement cette idée qu'il faut une reconnaissance mutuelle et que l'idéal n'est pas la performance, n'est pas la productivité, mais la manière de la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de la personne de l'autre. Et donc il me semble que ce message chrétien permet d'ouvrir un avenir pour l'humanité. Et le deuxième point où il me semble que le christianisme se présente comme religion de l'avenir, c'est le rapport entre Eros et Agapé. Il y a deux mots en grec, il y a trois mots en grec pour dire l'amour, Eros, Agapé, Philia. Le mot Eros est le mot général, le mot Agapé est un mot qui n'existe pas vraiment en grec classique, qui a été privilégié par les chrétiens pour dire l'amour de Dieu dans ce qu'il a de tout à fait particulier. Or, sur le rapport entre Eros et Agapé, il y a un conflit dans le christianisme et qui marque notre culture. Certains ont voulu non seulement distinguer, mais séparer et opposer Eros et Agapé. Hein, l'Eros serait l'amour de convoitise, l'amour de possession, l'amour passionnel, et l'Agapé serait l'amour pur, l'amour purement désintéressé, et il faudrait détruire l'Eros pour que Agapé paraisse. Eh bien, la tradition chrétienne, fort heureusement, n'est pas unanime sur cette thèse qui a dominé la spiritualité au XIXe, mais a considéré que l'agapé est justement l'accomplissement de l'éros. C'est-à-dire que les énergies latentes dans l'être humain, la volonté de vivre, la volonté d'être heureux et de ne pas être seul, la volonté de la vie, de la fécondité de la vie, c'est en quelque sorte comme le matériau avec lequel la présence de Dieu, quand elle se fait agapé, devient source de vie. Et c'est pourquoi cette théologie chrétienne qui unifie Eros et Agapé me semble être le maître mot de ce qui ouvre l'avenir. Et là aussi, ce qui est le critère de différence, c'est évidemment la manière de voir la personne humaine, le respect de l'altérité, la reconnaissance et la valeur des relations. Je regarde ma montre, le temps arrive, je vais donc vous dire ma conclusion très rapidement. J'ai pris le parti de la longue durée, donc on a parlé de Pascal, de Descartes et de quelques autres. C'est la même science. J'en ai montré la grandeur, j'en ai montré la nature, une valeur de la raison, j'en ai montré les difficultés quand ça devient un système techno-scientifique de type totalitaire. Le mot « culture » permet de montrer comment le savoir n'est pas isolé, il est matriciel pour toute notre vie. J'ai commencé par évoquer les comètes et je reprendrai la question des comètes. Les comètes étaient connues comme des présages, un message du ciel. Eh bien, posons-nous la question, quel message nous vient aujourd'hui de la nature ? Eh bien, je pense que le message qui nous vient aujourd'hui de la nature peut être d'entendre et de reconnaître le Créateur, l'intelligence du Créateur à l'œuvre dans la nature, et corrélativement la responsabilité humaine qui nous est donnée. C'est aussi reconnaître, et cela je l'ai dit à propos de l'émerveillement, de reconnaître qu'il y a un mystère qui est donné dans l'existence même de l'humanité, dans la nature qui est toujours plus belle et plus riche, et dont la science est un instrument pour la découvrir. Et parce que, au terme de cet exposé, il nous faut des éléments de discernement, je terminerai en citant Pascal, dont vous avez deviné que je l'aimais beaucoup, qui écrit ceci, c'est un maître mot. Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut, se soumettre où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Il y en a qui faillent contre ces trois principes, ou en assurant tout comme démonstratif, manquent de se connaître en démonstration, ou en doutant de tout, manque de savoir où il faut se soumettre, ou en se soumettant en tout, manque de savoir où il faut juger.